En France, 43% des agriculteurs ne dégagent même pas un SMIC de leur activité. Ils gagnent moins de 1 450 euros net par mois. Quand on regarde secteur d'activité par secteur d'activité, l'élevage bovin, viande, c'est Didier, c'est entre 1 400 et 1 500 euros par mois en moyenne. La viticulture, on tourne autour de 2005 à 2008. L'arboriculture, le maraîchage, 2000-2800 mensuels. Les grandes cultures, là on est chez les céréaliers, c'est le résultat de cette étude, 2000 euros. Et l'élevage porcin, 1700 à 2000 euros selon les cycles de prix. En fait, aujourd'hui, si on voulait garantir un revenu de base moyen pour vivre aux agriculteurs, il manque 3,3 milliards d'euros. Alors certains plaident pour est-ce que les agriculteurs aient un... Si tu veux une espèce de revenu minimum garanti,
ah oui.
pourquoi est-ce que les agriculteurs ne s'en sortent toujours pas? 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. On se souvient des grands discours d'après Covid.
Hein. C'est ça.
Mangeons local, privilégions le made in France, ceux qui font tourner la machine, privilégions les agriculteurs.
La prise de conscience des manifs de 2024 aussi, quoi. Ouais. Enfin, où tout le monde était main sur le cœur en disant plus jamais. Pourquoi les agriculteurs s'en sortent pas? Enfin, j'ai longtemps cherché à résumer la situation. D'abord parce que c'est pas eux qui fixent leur prix et que du coup ça devient très souvent la variable d'ajustement. Celui qui produit la matière première, alors ça vaut pour l'agriculture mais pas que. Il y a d'autres secteurs d'activité où il y a des gens qui produisent la matière première. C'est la variable d'ajustement donc dans l'arbitrage des ménages. Parce que quand ça sert, eh ben, on sert sur la qualité des aliments qu'on met dans notre assiette. Donc, indirectement, on sert l'agriculteur. Et c'est la variable d'ajustement des filières. Puisque c'est celui qui est au début de la chaîne et qui fixe pas lui-même son prix. Donc, à un moment donné, c'est comme ça qu'on se retrouve dans une situation où les agriculteurs, depuis 50 ans, globalement, sont la cinquième roue du carrosse, en termes de revenus. Alors, derrière ça, faut distinguer, tu l'as fait, il y a quand même les agricultures et les métiers dans l'agriculture. Ce qui pèse sur le résultat global, c'est que les céréaliers ont fait une mauvaise année parce que ça joue tout ça sur un marché européen, voire mondial, à 2% de production près. Et comme on a fait plus 5% en céréales, bah, les prix se sont effondrés. Et du blé qui valait aux alentours de 300 euros tonne il y a 3 ans, il est rendu à 120, 130 euros tonne, quoi. Donc, en gros, les gens, avec des intrants qui montent, avec du matériel qui augmente, avec des charges qui font toujours plus, les gens, ils produisent plutôt à perte, quoi. Et derrière ça, tout le monde peut dire la main sur le cœur, on va aider les agriculteurs. N'empêche que tous les citoyens, quand ils sont en train de pousser leur caddie, ils lisent très peu les étiquettes et ils vont au plus offrant. C'est la loi du marché.
Antoine, et puis ensuite, on va aller du côté de la Vendée retrouver Pascal, qui est agriculteur, qui est bovin, comme l'ami Didier.
Ouais. On peut réfléchir le marché en se disant le prix de vente est trop faible. C'est juste, ils sont très bas les prix de vente, les prix d'achat des matières premières. On peut aussi réfléchir le marché en disant si le prix est celui-ci, je dois avoir un coût de revient qui est inférieur. Et je crois qu'on impose à nos agriculteurs français des coûts cachés dans nos normes, dans ce qu'ils ont droit de faire, dans le fait aussi que nos exploitations sont pas parmi les plus grandes au monde, donc il y a pas de, on n'arrive pas à faire.
Ça, c'est une volonté aussi.
Alors, moi, je pense que on doit absolument avoir des grandes exploitations. Dans mon coin, dans le Nord, il y avait un feuilleton agricole pendant longtemps, la ferme des 1000 vaches. Ouais. Un investisseur avait voulu faire une ferme à 1000 vaches.
Mais tout le monde avait dit, il y en avait 550 et
il a jamais pu monter beaucoup plus haut à cause des autorisations, etc. Bah pardon, mais si la ferme est plus grande, si le champ est plus vaste, les coûts de production diminuent. Et donc là, on arrive à peut-être diminuer son coût pour arriver à avoir un prix.
T'as
qui
des productions
de
aussi qui mettent en œuvre de la manœuvre.
Alors,
salarié, et pareil, du coup, le coût de la manœuvre en France, il est plombé. Voilà. Derrière ça, comment on se rapprochera du coût mondial? D'ailleurs, je sais pas s'il faut qu'on se rapproche du coût mondial. Et peut-être qu'il y a un type de production qui produit un type de bouffe. Et puis, il y a un autre type d'exploitation qui produit un autre type de bouffe. Et aujourd'hui, la France, on est quand même plutôt sur des marchés de niche. Et la production de masse pour le marché mondial, on l'a délégué. Je rappelle juste trois chiffres. On produit à peine 85% de la viande bovine qu'on consomme. On produit à peine 40% des volailles qu'on consomme. Et Mais on produit exporte. 50% des fruits et légumes qu'on consomme. Ça veut dire que alors cet enjeu de revenus des agriculteurs
suffisant ou pas?
Ben, on l'a été pendant des
décennies. Oui, d'accord, mais est-ce que
la mais bien sûr, ben, on l'est plus. 2026, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de manœuvres, il n'y a plus assez de bras. D'accord. Aujourd'hui, cette pénurie de revenus, ça crée une pénurie d'agriculteurs. Il y a dans mes zones des fermes qui dans 15 ans seront en friche. Et cette pénurie d'agriculteurs, elle crée une pénurie de produits, tout simplement. Et aujourd'hui, la question qui se pose, quant aux revenus des agriculteurs, c'est indirectement l'indépendance alimentaire du pays. Quoi.
Fatima Aïd-Bounoua, puis on va voir Pascal.
Vous vous souvenez, après le Covid aussi, on disait la France d'après, à quoi va ressembler la France d'après? Et parmi les certitudes, il y a toutes ces personnes qui, et notamment des politiques, qui redécouvraient les travailleurs. Parce que c'est ça la question. C'est pas simplement la question des agriculteurs. C'est la question de vivre dignement de son travail. Et cette question, on se la pose pour les soignants. Vous vous rappelez, on applaudissait les infirmières. Donc regarde, c'est la même chose. Les agriculteurs, on va dire, ils nous nourrissent. Les premiers de cordée, on va dire, pour les professeurs, tous ceux qu'on a redécouverts à ce moment-là.
Service à la personne.
On a vite fait d'oublier après. Et au moment, et pareil pour la souveraineté alimentaire, pour l'indépendance alimentaire, c'est au moment où on aura un gros problème. Dans 10 ans, s'il y a un gros problème ou s'il y a plus de jeunes agriculteurs, on dira, oh, c'est curieux qu'ils désertent ce métier. Mais c'est comment? À un moment, il faut être cohérent. Oui, on fait tout pour que les gens, on fait tout pour que.
Oui, mais Didier, il a pointé du doigt la responsabilité des consommateurs aussi.
Agriculteurs, même.
Est-ce que tu consommes français? Est-ce que tu achètes français?
Alors, justement, sur la, on en a parlé, il y a la responsabilité, mais pas seulement. Ça veut dire, il y a le pouvoir d'achat du consommateur. Et il y a aussi, la dernière fois, on parlait de la viande, et tu disais que quand la viande avait augmenté de 20%, tu te souviens? Oui. Et donc, on parlait de comment ça se fait. Finalement, il y a aussi les intermédiaires qui se font pas mal de marge aussi.
Oui, bien sûr.
Et on a fait un moment, on parlait que du consommateur. Vous vous rappelez, c'était à l'époque de qui c'est le patron, qu'on avait sorti pour le lait, pour, vous vous rappelez? Pour,
Nicolas Chaban.
Le slip pensé, tout ça. Mais c'est pas simplement nous, avec nos petites mains, qu'on responsabilise.
Ben, carrément. Parce que tu vois, si les politiques sont des poltrons, le consommateur, avec sa carte bleue, il a un vrai pouvoir, quoi.
On n'a pas
et aujourd'hui, où je renvoie un peu la responsabilité au consommateur, c'est parce que le consommateur, il fait des arbitrages.
Alors, Pascal est avec nous du côté de la Vendée. Bonjour, Pascal.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue. Vous faites partie de ces agriculteurs aujourd'hui qui n'arrivent pas à aller au-delà du SMIC?
Ah si, moi, j'arrive au-dessus du SMIC, mais c'est parce que je suis donc en fin de carrière. Donc, et j'ai une partie d'amorti au niveau de mes installations. Alors, je vous ai écouté, là. Donc, j'ai écouté Didier, donc, il a dit des choses vraies. De toute façon, c'est pas nous qui fixons notre prix, sauf nous, dans le cas de, en vente directe. Ouais. Et je pense que c'est à partir de là qu'on arrive à savoir si c'est intéressant de produire ou pas. Par contre, j'ai entendu le monsieur qui va parler de la grandeur des fermes. Il a parlé de l'affaire des 1000 vaches. Alors, mais il a dit des bêtises. Parce que l'affaire des 1000 vaches, elle a tombé. Pourquoi? Parce que la personne n'arrivait pas à avoir des salariés compétents pour faire son travail et que le coût de la main-d'œuvre ne permettait pas de dégager de la marge par rapport à son exploitation.
Ça, peut-être donc aussi, mais elle n'a pas eu les normes pour monter à 1000 vaches. Ça c'est tout
ce que j'ai dit. Non, mais il y a eu un problème de normes qui a été résolu. Laissez finir, Pascal, allez-y.
C'est faux. Bon. Il avait des possibilités, sauf que le problème, c'était la main-d'œuvre, comme a dit Didier, ça c'est pas tout seul, et notre main-d'œuvre au prix, elle est nous, on ne peut pas par rapport au prix du lait à laquelle il était vendu. La raison, elle est juste là. Bon, les grandes exploitations, moi, j'y crois pas trop.
D'accord.
Pas chez nous. Par contre, les plus petites exploitations bien gérées, oui, à condition que les agriculteurs prennent les choses en main.
Pascal, ce qui est gênant là-dedans, c'est qu'on dit une exploitation, elle n'est pas capable d'avoir des salariés au coût de la main-d'œuvre en France. Voilà. Par contre, elle tourne bien. Si c'est un exploitant qui fait le double du travail d'un salarié et qui prend à peine un SMIC. Enfin, à un moment donné, il y a aussi un vrai problème là-dessous, quoi.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Mais ce qui veut donc dire que si on veut conserver une agriculture en France et si on veut avoir des produits français, il va falloir payer le produit. Parce que nous, les jeunes, ils vont pas s'installer derrière nous s'ils ne gagnent pas leur vie. Et ils auront leur raison. Donc, je pense que, et en plus, le prix n'est même pas le réel prix parce qu'on est subventionné. Si on rajoute les aides et qu'on rajoute ça sur notre prix, on arrive à des
Pascal,
prix.
D'accord, mais là, en ce moment, avec la crise qu'il y a sur les carburants, la manière dont les Français serrent le budget, on voit bien que le budget alimentation, aujourd'hui, c'est plus le budget prioritaire. Aujourd'hui, le budget prioritaire.
L'agriculteur, il en met aussi du gasoil à l'un,
quoi.
Je
dis pas le contraire.
Et ça grève aussi son revenu.
Je suis d'accord avec toi, mais comme l'agriculteur, il attend à ce qu'on paye ses produits qu'on achète français, si tu veux, et qu'on les lui achète bien pour pouvoir vivre. Je dis que dans les situations compliquées comme aujourd'hui, c'est pas demain la veille.
Non, mais c'est aussi un faux débat, ça. Je suis désolé, un kilo de pot-au-feu de chez ton boucher, ça coûte pas plus cher qu'une pizza ou des cannellonis congelés. Par contre, quand tu fais ton arbitrage pour remplir ton panier, jamais il y a personne qui se pose la question d'arrêter Netflix, d'arrêter tous les abonnements, d'arrêter, et à un moment donné, tout le monde a un iPhone à 1500 balles dans la poche, mais ça les fait chier de payer du pot-au-feu 6 euros le kilo, quoi. Tu vois, il y a un moment donné, je veux bien que la vie, elle a changé, je veux bien que la ménagère travaille et qu'elle a plus le temps de cuisiner, mais il y a aussi des gens qui font des choix pour ne plus consommer français, quoi.
On a Rémi qui veut intervenir, qui est du côté de l'Hérault, mais qui est agriculteur aussi. Bonjour Rémi, bienvenue.
Bonjour les Gégés.
Vous arrivez à sortir au-delà du SMIC ou pas, vous, Rémi?
Pour être honnête, en ce moment, non. Et c'est rare qu'on le dise parce qu'on n'a pas envie de montrer ça aussi, mais en tout cas, on essaye d'aller de l'avant et se diversifier, notamment sur des exploitations, même en reprise d'exploitation. Et ça a été dit, beaucoup de choses ont été dites, mais moi, il y a une chose en fait. S'il y a du revenu derrière, il y a de l'attractivité, il y a de l'investissement, il y a du changement de nos pratiques pour s'améliorer, pour embaucher. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, le problème que l'on a, c'est que moi, ça fait plus de 10 ans que je suis installé. Les prix, alors, à la base, j'étais viticulteur. Je suis devenu aussi éleveur. Je suis devenu aussi maraîcher pour essayer de m'en sortir. Mais aujourd'hui, les prix stagnent, voire baissent. Et les charges, par contre, depuis 5-6 ans, augmentent de 25-30%.
Elles explosent.
Et en fait, aujourd'hui, le peu de marge que l'on avait pour investir, pour vivre, tout simplement, hein, c'est que, on le bouffe, clairement. On n'a plus de trésorerie pour aller de l'avant. Aujourd'hui, on veut planter des légumes, par exemple. Il faut donner 50% de la compte. Et il faut réserver plus de la moitié de l'année de plants. Donc, je vous laisse imaginer à une grande échelle les montants que ça fait à sortir sans rien faire. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe une bonne commande, on sort beaucoup d'argent. Donc, c'est là le problème. Et comme ça a été dit aussi, les quelques subventions que l'on a, ça masque aussi la réalité. Par contre, là où les Français ont affaire, c'est que dans leur acte d'achat. Et moi, je suis désolé, quand on va direct producteur, je vends des légumes en direct, je ne suis pas plus cher qu'en supermarché. Voire voilà, souvent moins cher sur la plupart des produits.
Et en supermarché, c'est des tomates et des fruits espagnols.
Ben oui, parce qu'aujourd'hui...
Qui sont cultivés avec des produits qui sont interdits chez vous. Enfin, disons-le, quoi.
On a des tomates qui commencent à arriver dans le département. On a attendu un petit peu pour les mettre en vente à nos consommateurs aussi, à nos clients, parce qu'on leur a dit, attendez qu'elles aient un peu plus de goût, attendez qu'elles soient vraiment de saison, etc. Il faut aussi créer l'envie. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus d'éducation alimentaire, et nous, on se bat aussi pour ça. Bah. Et je me bats particulièrement avec les jeunes agriculteurs, entre autres, etc., pour redonner du goût à l'alimentation de saison, aux bonnes choses, parce que il faut créer l'envie. Moi, j'ai envie de manger des tomates, je m'interdis de manger des tomates en ce moment. J'attends la fin de semaine d'aller chez mon collègue à côté pour manger une bonne tomate. Parce que mois de juillet, j'aurais plus envie d'en manger.
Ouais, vous avez raison, Rémi. Mais d'ailleurs, ce sera un sujet dans la deuxième heure des GG, de la deuxième heure des Grandes Gueules. C'est les produits transformés, l'alerte sur les produits transformés qui provoquent aujourd'hui des problèmes de santé et d'obésité. Et en Angleterre, ils ont décidé d'interdire la publicité pour les produits transformés. Est-ce que ça peut être efficace ou pas? On en parlera tout à l'heure dans la deuxième heure des GG. Je remercie Rémi et Pascal d'avoir été avec nous. Mot de la fin,
Rémi a dit un truc très important au début. Il a dit, mais on n'a pas envie de montrer ça aussi. On n'a pas envie de montrer ça. Moi, je vous dis, la dignité du travailleur, la dignité des gens qui souffrent actuellement en France, il y a plein de gens très dignes qui ont envie de vivre de leur travail, qui n'ont pas l'habitude de demander, qui n'ont pas été élevés comme ça, qui ont des valeurs et qui ne vont pas se plaindre, parce que ça ne se fait pas de se plaindre et tout ça. Et les politiques profitent de ça. Moi, je trouve qu'ils profitent de ça. Normalement, ils devraient être là. Un politique, ça anticipe et ça voit. On n'a pas besoin d'exhiber sa souffrance. On n'a pas besoin de venir réclamer pour qu'ils disent « Ah, il y a un dysfonctionnement ». Et ce qui arrive en France et qui est très, très grave, c'est qu'on est obligé de lutter, là, pour la base. La base, je travaille dur, je gagne ma vie. Je gagne plus que le SMIC. Ça, c'est la base. Normalement, il n'y a pas une question de parti, c'est pas une question de droite ou de gauche. C'est la base. Sans ça, un pays n'est pas viable.